Bonsoir. Au risque de casser l'ambiance, pour certains d'entre vous, les vacances ne sont déjà plus qu'un lointain souvenir. Et pour d'autres, eh bien, elles vont se terminer dans les prochains jours ou les prochaines heures avec des incontournables. L'incontournable séquence embouteillage, juste après la séquence des valises qu'on n'arrive plus à fermer. Et pour les professionnels du tourisme, eh bien, ça va bientôt être l'heure des comptes. Bonne saison, mauvaise saison, les touristes français ont-ils été nombreux? Quelles sont les régions qui ont gagné cet été 2017? Côté dépenses, les touristes ont-ils été cigales ou plutôt fourmis? Et enfin, quid des touristes étrangers après les attentats de novembre 2015 ou ceux de Nice l'année dernière? Ont-ils retrouvé le chemin de la France? Voici quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir au téléphone sonne.
Philippe Lefebvre, le téléphone sonne.
Et je vous présente nos invités en studio avec moi, Didier Arino, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du cabinet Pro Tourisme, vous êtes un observateur attentif de l'économie du tourisme. Au téléphone, David Lisnard, bonsoir. On va retrouver David Lisnard dans quelques instants. Hervé Beckham, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes vice-président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. David Lisnard, maintenant je pense que vous êtes avec nous.
Oui, allô.
Voilà, vous êtes maire de Cannes et président du comité régional du tourisme Côte d'Azur. Pour poser vos questions, réagir ou témoigner, c'est très simple. Il y a le site franceinter.fr, les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson et enfin le 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur les réseaux sociaux avec le mot-clé Telson.
Alors Didier Arino, moi j'ai l'impression qu'on se voit pratiquement tout le temps à peu près à la même époque pour refaire le bilan. Alors je vous pose la question traditionnelle, limite marronnier, est-ce que 2017, l'été 2017 aura été un bon millésime du point de vue touristique?
Alors ce que l'on peut dire d'abord c'est que la grande saison estivale, parce qu'on ne peut pas se contenter des chiffres de juillet-août, d'autant plus que août n'est pas terminé, et qu'on sait qu'il y a un allongement de la saison touristique, et que le mois de septembre d'ailleurs est plutôt mieux réservé que l'an dernier. Mais ce que l'on peut dire, c'est que sur la grande saison estivale, nous serons globalement en hausse au niveau national, grâce au printemps, par lequel nous avons une formidable augmentation de la fréquentation, à la fois des clientèles françaises, mais aussi et surtout des clientèles étrangères qui sont revenues dans notre pays. Maintenant, cette progression, elle est inégale. Il y a des territoires qui gagnent, il y a des opérateurs qui gagnent, et puis il y a ceux qui perdent. Et ce que l'on peut dire en revanche, c'est que dans le concert des destinations mondiales, notre part de marché continue de se réduire. Nous progressons moins vite que les autres, à la fois en termes de revenus, mais aussi, on le voit, nos territoires s'affaiblissent, nos investissements sont en retrait par rapport aux autres pays. Juste un chiffre, alors que depuis 2000, nous avons progressé de 30% de chiffre d'affaires en euros constants, l'Espagne a progressé de 80%. Et quand on regarde ensuite la situation des grandes destinations européennes, quand on progresse de quelques points cette année, une destination comme l'Espagne, le rêve par, le revenu par chambre dans l'hôtellerie, que ce soit à Barcelone, à Madrid, que ce soit en Grèce, que ce soit au Portugal, est en augmentation de 15%, alors que nous, si nous avons plus de touristes cette année, nous avons dans les hébergements marchands quantifiables, nous avons des prix qui ont tendance à stagner et l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui on a une certaine inadéquation sur certains territoires entre le budget dont disposent nos concitoyens et les prix pratiqués par les opérateurs du tourisme, mais il est difficile pour bon nombre d'opérateurs du tourisme d'ailleurs de baisser les prix parce qu'ils ont des coûts de structure qui sont élevés. Donc on est dans une équation difficile, on peut dire que ça va mieux, on peut dire que juillet a été un petit peu décevant par rapport à ce que l'on attendait, août à peu près conforme, sauf que, et ça c'est une bonne nouvelle, ces derniers jours nous avons une accélération des réservations dernière minute, donc cette fin du mois d'août sera visiblement excellente, on est à plus 12% de réservations, ça n'est quand même pas rien, et le mois de septembre ça annonce prometteur.
Alors on va retrouver Hervé Beckham, le vice-président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. Franchement, vous dans l'hôtellerie, la restauration, au mois de juillet vous êtes fait un peu peur là, hein?
Oui, tout à fait. Mais ceci dit, globalement, Didier Arino vient de résumer parfaitement la situation de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui en France. C'est-à-dire que, oui, il y a une accélération de la fréquentation. Oui, il y a une baisse des revenus et du RevPAR et globalement du chiffre d'affaires, enfin du moins des prix de vente. Et c'est vrai que après un début de saison mai-juin qui avait été satisfaisant pour l'hôtellerie-restauration, pour répondre à votre question, le début juillet, la météo a été n'a pas favorisé ce que l'on espérait, enfin n'a pas concrétisé ce que l'on espérait, en tout cas du mois de juillet. Maintenant, pour continuer, c'est vrai que le mois d'août s'annonce bon à peu près partout en France, même s'il y a, et Didier Arinault le soulignait, de grandes disparités entre les zones littorales, certaines zones littorales, l'une par rapport à l'autre, ainsi que pour les zones non littorales.
Mais alors, moi, je croyais que les vacances d'été, c'était sanctuarisé, on y pensait très longtemps à l'avance, on calait ces dates de vacances très longtemps à l'avance. Là, vous êtes en train de me dire que les touristes français notamment, sont météo-réactifs, c'est-à-dire que dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de beau temps, ils viennent plus?
Ah ben nous sommes aujourd'hui notre activité, notre secteur d'activité est météo dépendant, en tout cas ça c'est une certitude. Tout comme les vacances réservées 3 mois à l'avance où on passait 15 jours dans le même établissement, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui on en est à des réservations à J-1 voire à J0, c'est-à-dire à 9h le matin pour 19h le soir.
Et ça, c'est possible de trouver de la
constante.
Et c'est possible de trouver de la place à J-0, comme vous dites.
Ben oui. Les hôteliers aujourd'hui sont contraints à cette habitude, à cette nouvelle habitude de la clientèle et des consommateurs.
Alors, on va aller maintenant du côté de la Côte d'Azur retrouver David Lisnard, donc le maire de Cannes. Ça s'est passé comment pour vous cet été? Parce qu'on se souvient de l'été, bien évidemment, 2016, tragique à Nice. La Côte d'Azur a repris des couleurs.
La Côte d'Azur a repris des couleurs avec une précision, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur des effets de saisonnalité particulièrement prononcés. On avait, je crois, exprimé une capacité de résilience dès la fin de l'année 2016 en limitant la perte de séjours. Aujourd'hui, on retrouve un nombre de séjours extrêmement élevé. On retrouve pas toujours la valeur, la dépense, et c'est pourquoi le propos introductif de Monsieur Arinault était très très pertinent sur tous les points d'ailleurs. Et il y a d'énormes contrastes. Si vous voulez. C'est toujours très difficile de dresser des bilans dans des destinations en sachant qu'on raisonne encore en taux d'occupation, en RevPAR, en revenu par chambre, etc., mais que l'économie non marchande a pris une place considérable dans l'offre touristique et donc dans l'accueil touristique et qu'on l'évalue beaucoup moins. On ne compare pas forcément les mêmes choses avec l'accélération de l'offre de l'économie non marchande. Donc pour résumer, on a une Côte d'Azur qui est en rebond. On a énormément travaillé sur la marque Côte d'Azur France, sur la mise en contenu des séjours pour apporter de la valeur ajoutée. On a eu sur la saison estivale qui est loin d'être terminée, après un excellent mois de mai, un excellent mois de juin, sur le tourisme de loisirs, mais aussi beaucoup sur le tourisme d'affaires, et en particulier à Cannes. On a eu un mois de juillet, alors que la météo était parfaite, donc là, on est moins météo-dépendant, comme pour reprendre l'expression précédente, mais on a eu un mois de juillet plutôt mauvais, plutôt terne, plutôt atone. En revanche, un excellent mois d'août, et septembre s'annonce bien, octobre aussi. Tout le secteur du MICE, Meeting Incentive Congress Event, qui est un élément très très important de notre attractivité, de la valeur ajoutée, des emplois que l'on crée, s'annonce plutôt bien. Mais je crois qu'il faut réellement s'interroger aujourd'hui sur le marketing territorial, sur le marketing de la destination France, sur la façon dont on appréhende l'économie numérique et le retard qu'on a pris sur, parfois à cause de réglementations excessives ou d'une approche maximaliste de la CNIL, pour que les grandes marques touristiques privées puissent utiliser vraiment des données et être interactives, etc. Souvent, on se targue d'être la première destination mondiale. C'est bien, il faut être positif, on a besoin d'esprit positif. Mais en réalité, une personne qui part d'Allemagne, qui reste une nuit sur un hôtel sur le bord de l'autoroute dans la vallée du Rhône et qui reste 3 semaines en Espagne, sera compté comme un touriste en France et comme un touriste en Espagne. Donc il faut vraiment aborder la question de la valeur, de la valeur touristique et de la valeur apportée par chaque touriste.
Didier Arinault, tout à l'heure vous disiez vous parliez du fameux RevPAR, le revenu par personne qui occupe une chambre. Pourquoi les touristes étrangers dépensent plus d'argent en Espagne ou au Portugal qu'en France ?
Alors, d'abord, je
pense... Parce qu'on ne sait pas leur donner envie de dépenser leur argent, comme à Las Vegas ou à Macao?
Non, alors ça, je crois que c'est le faux problème. Comme, évidemment, on compte des touristes qui ne sont que de passage, on part du principe, quand on fait la moyenne du nombre de touristes avec les recettes, que les dépenses des touristes étrangers sont plus faibles en France. Mais elles sont plus faibles parce que ce ne sont que des clientèles de passage. Si on prend les clients qui restent moins de 4 jours, c'est 40% de la fréquentation touristique dans l'Hexagone. Donc c'est ce chiffre qui est un chiffre un peu bidon de ces 83, 84 millions de touristes. On ne paye pas des salariés en touristes, on les paye en euros. Et quand on regarde la réalité, c'est que les dépenses des étrangers en France ne cessent de diminuer depuis 3 ans, puisque nous sommes passés de 43 milliards d'euros en 2014, 41 milliards d'euros en 2015, 39 milliards d'euros en 2016. Donc on voit bien que nous avons une perte de compétitivité. Cette perte de compétitivité, elle est due à un certain nombre de choses. D'abord, il y a de nouveaux acteurs sur le marché, c'est tout à fait évident, en plus grèvent la rentabilité de nos entreprises touristiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
C'est la faute d'Airbnb ?
Alors Airbnb, mais prenons l'exemple, évidemment, Airbnb ne participe pas, ne paye pas de charges sociales, n'a pas de contraintes. Et alors ce que je conseille d'ailleurs aux auditeurs et à ceux qui les utilisent, tant que vous n'avez pas de problème, tout se passe bien. Si vous avez le moindre problème avec Airbnb, je vous souhaite bon courage pour vous faire rembourser. On a des cas qui remontent jour après jour de choses totalement scandaleuses. Le dernier en date, c'est des gens qui arrivent à Palma de Mallorca, des Français qui réservent un hébergement. Il y a des cafards dans les placards. L'hébergement ne correspond pas parce que la dame qui détient l'immeuble a 10 logements, dont certains plutôt de qualité, d'autres complètement pourris. Et elle met la photo de sa terrasse qui est fleurie alors qu'elle accueille les touristes dans un autre appartement tout à fait lamentable. Et dans ces cas-là, toute la procédure, c'est là le problème. C'est que Airbnb n'assume pas ses responsabilités. Et donc, dans ces cas-là, ils répondent complètement à côté de la plaque. Voilà quelqu'un qui a investi et qui a mis 1200 euros pour 6 nuits. Ça fait quand même 200 euros par nuit, quand même, pour quelqu'un qui ne paye ni charges sociales, ni TVA, ni taxes, ni impôts, et avec un client qui est floué, qui est obligé de faire une déposition à la Guardia Civil, ou même des propriétaires d'appartements, comme ça s'est produit pour Vinexpo à Bordeaux, qui ont eu leur maison à moitié détruite, leur cave vidée par des clients, et dans lesquels il n'y a pas de recours. Donc le problème, c'est qu'on est dans une mondialisation avec des opérateurs français qui subissent toutes les contraintes, et avec des acteurs qui sont des acteurs du numérique, qui ont une utilité, parce qu'il faut bien le dire, dans la ville de M. Liesnard, bien évidemment il y a beaucoup de Airbnb, mais il y a des gens, ça peut être aussi un accès à la destination pour des jeunes qui vont louer un appartement à plusieurs. Ça n'est pas contestable. Il y a une génération aujourd'hui qui utilise Uber, qui va dans les Airbnb. Il n'y a aucun souci là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut rétablir un équilibre. Il faut qu'ils payent et qu'ils participent au financement de notre système social. Autrement, on est dans une économie qui nous fera perdre des parts de marché année après année. Et il faut pour cela que nos opérateurs touristiques investissent et qu'on ait une véritable politique touristique, ce que nous n'avons pas depuis 30 ans. D'ailleurs, on peut souligner en termes de communication la remarquable campagne qui a été faite par la Côte d'Azur, parce que pour une fois, depuis 2 ans, et c'est parce que nous avons eu des problèmes, nous avons enfin pris les choses en main pour évoluer dans une communication touristique et pour prendre en compte nos difficultés et arrêter de les nier.
France Inter, le téléphone sonne.
Allez, retour au standard du téléphone sonne. Nous allons à Craponne retrouver Thierry. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Une brève question. Dans le Haut-de-Gamme, les 5 étoiles Palace sont pleins. Dans le Bas-de-Gamme, les campings sont pleins. Dans le milieu de gamme, très créative d'emploi, les hôtels et les hébergements souffrent. Pourquoi ?
Eh bien, on va vous répondre, Hervé Beckham. Pourquoi, comme le dit Thierry, l'hôtellerie moyenne gamme semble plus souffrir que les autres, en tout cas que les campings et les palaces parisiens, ou les palaces de la Côte d'Azur ?
Je pense que là, exactement dans l'esprit de ce que disait Didier Arinaud, il faut trouver une des explications. Hein, dans le développement du phénomène Airbnb, je pense que le segment de clientèle de moyenne gamme de l'hôtellerie et de moyenne gamme ou de bas de gamme, notamment pour l'hôtellerie, en tout cas le plein air, je ne m'avancerai pas, mais pour l'hôtellerie, le segment de clientèle correspond beaucoup plus au segment de clientèle qui réserve Airbnb avec avec tous les inconvénients que vient de citer Didier Arrigo tout de suite.
Et cette hôtellerie n'est plus compétitive, cette hôtellerie moyenne, entre guillemets, ne serait plus compétitive ?
Elle reste compétitive, elle se rénove, même si il est vrai qu'il est nécessaire aujourd'hui de continuer à investir dans notre secteur d'activité, mais elle se rénove, elle fait des efforts, elle investit. C'est vrai que dans le moment, elle est un tout petit peu dans la difficulté face à ce créneau, à ce segment de clientèle que vous venez de préciser.
David Lisnard, pour revenir sur ce que disait Thierry de Craponne qui nous appelait au 01 45 24 7000, on voit que le camping, ça marche de mieux, ça n'a jamais aussi bien marché. Il y a 2-3 ans, on ne parlait pas trop de camping. Maintenant, ça devient même limite branché d'aller dans un camping, y compris sur la Côte d'Azur.
Oui, je vous confirme que le camping de Cannes, qui est très bien d'ailleurs, est plein et que les palaces de la Croisette fonctionnent bien. Sur cette question, elle est très pertinente, mais je crois qu'il faut là aussi se passer du point de vue de la demande et de l'offre. Du point de vue de la demande, les familles, les classes moyennes, depuis 30 ans, sont celles qui sont les plus touchées par la surfiscalité, par les attaques sur le pouvoir d'achat, etc. Donc il est normal qu'il y ait une tension sur la demande. Cette hôtellerie intermédiaire, 2 étoiles, familiale, etc., elle souffre parce que la demande souffre, c'est parce que sa clientèle souffre. Du point de vue de l'offre, ces hôtels-là, ces établissements sont, comme beaucoup d'entreprises en France, les plus plombés par les surcharges et les pesanteurs normatives, fiscales. Un établissement très haut de gamme qui a une grosse capacité de chambre et qui peut pratiquer un prix élevé sur certaines périodes, pourra se mettre aux normes et pourra apporter un service qui répond à une demande d'une clientèle mondiale qui est prête à payer s'il y a de la qualité. Mais pour une hôtellerie intermédiaire, c'est beaucoup plus difficile. Donc, cette hôtellerie-là, elle paye, comme beaucoup d'entrepreneurs français, les 30 années de surfiscalité, de surcharge, de surnormes que l'on subit. Donc, il y a un problème de demande, il y a un problème d'offre. Et effectivement, pour reprendre ce que disait Didier Arrigo tout à l'heure sur l'économie non marchande, et je crois qu'il est absolument indispensable qu'il y ait une régulation, une équité, qu'on lutte contre les distorsions de concurrence, tout en comprenant que cette nouvelle offre, elle apporte aussi un plus, elle a stimulé l'offre, elle a remis en cause des situations où on avait parfois quelques professionnels qui avaient tendance à traire la vache, hein, lorsqu'on est sur des destinations extrêmement attractives, quand il y a des grands événements, hein, je sais de quoi je parle. Donc il est hors de question de laisser continuer à prospérer une offre qui n'est pas une équité de normes, de charges, de contraintes, parce que ça c'est tout à fait inacceptable d'un point de vue moral et destructeur d'un point de vue économique et social. Mais parallèlement, il faut réguler cette nouvelle offre et que chacun trouve sa place. Il me semble qu'on est en train de commencer à comprendre ces phénomènes-là, et il est normal que quelqu'un, moi je ne suis pas opposé à l'économie marchande, non marchande des particuliers, enfin qui par Airbnb, mais il faut se déclarer, payer la taxe de séjour, un nombre limité, comme le prévoit la loi de 100 nuits limitées par an, ne pas vendre à la nuitée, mais vendre sur des périodes de plusieurs jours. On peut trouver des solutions qui vont permettre à l'hôtellerie dont on a besoin, avec des vrais professionnels qui sont fiables, qui sont identifiés, qui peuvent effectivement régler des problèmes, comme l'a très bien dit Monsieur Arrigo, et de vivre, de survivre, de se développer, de retrouver de la marge économique, et parallèlement de répondre aux besoins d'une clientèle familiale qui ne peut pas se payer, une classe moyenne, un hôtel pendant une semaine, qui ne peut plus se payer pendant une semaine avec les enfants, un hôtel en 2 étoiles. Au passage, je remercie M. Arrigo de ses compliments sur la campagne que nous avons faite sur la Côte d'Azur. Après la tragédie du 14 juillet de Nice, qui était, ce que je ne vais pas qualifier, il a fallu qu'on rebondisse, et ça a été pour nous un énorme stimulant pour fédérer les professionnels privés publics, mais aussi on a envie de montrer pourquoi la Côte d'Azur est une grande destination mondiale. Cette toute petite terre, souvent décriée, on est victime, vous parliez de marronniers, de clichés de marronniers, mais pourquoi on est une grande destination ? parce qu'il y a une ouverture culturelle, parce qu'il y a une belle lumière, parce qu'il y a des bons professionnels, parce qu'on a des contrastes de paysages, on a des villes toniques, dynamiques, Nice, Antibes, Cannes, Grasse, et puis on a des paysages de montagnes fabuleux. Et je crois que pendant trop longtemps, on faisait de la cueillette, pour reprendre une vieille expression, mais on a besoin aussi de montrer qu'on aime accueillir et que la Côte d'Azur, c'est pas le clinquant, c'est le clinquant pourquoi pas d'ailleurs, mais ce n'est pas que ça, c'est une terre d'authenticité et c'est ce qu'on veut montrer aujourd'hui. On a envie d'être respecté et d'être aimé parce qu'on aime accueillir. Voilà, passer au passage, merci à vous de me l'avoir permis.
Merci David Lesnard. Didier Arino, pour qu'on comprenne bien les choses, nos auditeurs ne sont pas tous forcément des spécialistes du tourisme, mais des clients du tourisme, c'est quoi l'hébergement non marchand?
Alors d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'on parle d'un hébergement non marchand lorsqu'il s'agit d'une location entre parties, mais ça n'a rien de non marchand, puisqu'on paie. Donc c'est de l'hébergement marchand, dissimulé, gris, noir, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas non officiel, mais c'est de l'hébergement marchand. On
paie. Parce qu'avant, c'était pas ça la définition de l'hébergement non marchand.
Ah ben non, avant ça n'était pas cela. C'est l'hébergement non marchand, au départ, c'est l'hébergement gratuit, chez les parents, chez les amis, dans sa résidence secondaire. Et d'ailleurs, ça pèse lourd hein, dans le tourisme hexagonal aussi, ce type d'hébergement. Mais là, on est dans un hébergement qui est payant, qui doit être dans des règles, qui soient des règles de redistribution, de paiement d'un minimum de taxes. Il y a un secteur qui a su extraordinairement bien évoluer. On évoquait le camping, notamment les campings haut de gamme. Ce secteur de l'hôtellerie de plein air, d'ailleurs on est passé du camping à l'hôtellerie de plein air par des mobil-homes, par des bungalows, par des parcs aqualudiques, par des services pour les enfants, pour les adultes, de plus en plus de spas. Et quand on regarde les opérateurs, un opérateur comme Sunelia est en très forte augmentation cette année parce qu'il propose de la qualité. Et alors comme ils proposent de la qualité, ils sont réservés longtemps à l'avance, ils ne sont plus dépendants des réservations de dernière minute puisqu'ils ont fait le plein. Et donc, leur souci majeur, c'est de maintenir la qualité au sein de leur chaîne. Et donc, on voit que cette profession de l'hôtellerie de plein air, elle a su formidablement se rénover. Il y a d'autres territoires dans lesquels on voit bien cette année une difficulté pour le rural banalisé, pour les destinations de montagne. Et pourtant, il y a des stations qui ont fait un travail formidable. Quand on prend la station des Rousses dans le Jura, c'est une station qui progresse cette année. Pourquoi ? Parce qu'ils ont amené du contenu, de l'innovation, des produits culturels, des produits sportifs. Ils savent ne pas jouer que sur la saison d'hiver ou la saison d'été. Et rappelons que pour bon nombre de territoires, y compris d'ailleurs sur la Côte d'Azur, mai à septembre, c'est 45% des arrivées, mais c'est 60% des nuitées. Donc quand on rate cette saison estivale, on perd lourd. Et donc, on voit bien que ce qui est le moteur de la réussite dans notre pays, c'est l'innovation et c'est l'investissement. Donc, il faut absolument drainer l'épargne. Il faut permettre aux opérateurs du tourisme d'avoir une ambition et pas de se contenter de ce qu'ils ont. On a aussi un déficit de festivité dans nos stations, partout en France, et dans lesquelles on a des propriétaires d'appartements qui, quand ils avaient 30 ans, voulaient de la vie, de l'animation. Et on retrouve aussi cela sur la Côte d'Azur. Et maintenant, ils en ont 60, 70. Ils ne veulent plus d'animation. Et il y a les jeunes qui quittent la France et qui préfèrent aller dans des destinations étrangères parce qu'ils disent qu'en France, on manque de festivité, d'ambiance.
Mais est-ce qu'il y a un problème de prix ? Est-ce qu'il y a que les festivités et l'ambiance ? Parce que moi, j'ai un message de Franck sur le site franceinter.fr qui dit en 7 jours à Belly, je comprends pas qu'il n'y ait pas de boulangerie ou de restaurant ouvert le lundi ou le dimanche. Donc il y a un problème, comment RVB Cam, parfois sur l'ouverture de certains établissements, y compris de votre secteur, dans la restauration.
Bien sûr que ce problème, il existe, on ne le nie pas, il a toujours existé. Et moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur les propos de David Lesnard et de Didier Arino sur le fait, effectivement, que l'hôtellerie de moyenne gamme dont on parlait tout à l'heure, mais c'est le phénomène de toute l'hôtellerie et de toute la restauration, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises sont terriblement concurrencées, effectivement, par des opérateurs tels que Airbnb, on l'a cité, et qu'il est temps de trouver les moyens de donner à ces établissements, à ce type d'hôtellerie et de restauration, des moyens pour pouvoir innover tel que le souhaite Didier Arino. C'est vrai que aujourd'hui, la clé de la réussite, c'est l'innovation, c'est l'investissement permanent, c'est la rénovation permanente. Mais il faut que ces entreprises aient les moyens de pouvoir le faire. Aujourd'hui, elles sont complètement étranglées par la pression fiscale, la pression réglementaire, et puis aujourd'hui, il vient se rajouter là-dessus, la pression d'une concurrence complètement inéquitable. Alors, c'est le combat de l'hôtellerie et de la restauration aujourd'hui de rétablir cette équité nécessaire à la vie des entreprises traditionnelles et du circuit traditionnel de l'hôtellerie.
Alors,
et de la restauration.
Hervé Beckham, pour que l'émission ne tourne pas uniquement autour de Airbnb, je vous propose tout de même d'écouter le témoignage d'Emilia. Emilia, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Lyon et bienvenue sur France Inter, au téléphone sonne.
Merci. Moi, je suis étudiante, en fait, et j'avais un grand rêve, c'est d'aller à Tenerife, c'est dans les Canaries. Et je n'avais absolument pas les moyens de payer un hôtel et tout ça. Du coup, j'ai dû aller chez Airbnb. Mon premier logement s'est très bien passé, mais le deuxième, l'hôte n'a pas répondu et n'a... complètement injoignable, en fait. Et j'ai appelé le service client Airbnb, qui a été très réactif, qui m'a annoncé que si sous une heure, l'hôte ne répondait pas, ils annulaient mon paiement, ils me remboursaient, ils m'ont même dirigé pour trouver un autre logement de secours. Vu que l'hôte n'a pas répondu, j'ai pu réserver mon autre logement et tout s'est très bien passé. Donc, je trouve que Airbnb a quand même amélioré son service client et que maintenant, c'est très professionnel, en fait. C'est très agréable et peut-être que les critiques sur les catastrophes qui sont arrivées sur Airbnb sont peut-être moins souvent, enfin ça arrive de moins en moins souvent, ou alors c'est vraiment juste ce qu'on parle dans les journaux pour faire peur, mais moi en tout cas j'ai été très satisfait.
Merci Emilia. Alors vous voyez, quand on parle tourisme, on revient forcément toujours plus ou moins sur Airbnb. Alors on va essayer d'évoluer quand même, d'aller un petit peu plus loin. Didier Arino, parce qu'on fait le bilan de l'été, tous les ans il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Alors vous regardez ça à la loupe, qui a gagné, qui a perdu cette année?
Alors cette année on peut dire que Paris a gagné, puisqu'il y a une croissance qui est une croissance très importante, de plus de 10% des nuitées touristiques. Une ville comme Bordeaux a explosé en termes de fréquentation, en bénéficiant à la fois du renouvellement de son offre, de son bon positionnement, mais aussi du fait que la météorologie ayant été plutôt défavorable sur le sud Atlantique, un certain nombre de clients se sont reportés à l'intérieur des villes, avec la formidable Cité du Vin à Bordeaux qui fonctionne très bien. On voit que la Côte d'Azur a repris des couleurs, et ça c'est une bonne chose, même si avec une augmentation de la fréquentation, même si une partie du chemin reste à accomplir, et notamment en permettant d'augmenter un petit peu les recettes du tourisme. On voit que les parcs à thème s'en sont bien sortis. Alors il y a ceux qui sont des refuges.
Il y a les locomotives, Disneyland, le Futuroscope.
Le Futuroscope, le Puy du Fou, qui continue sa progression et qui est un parc tout à fait formidable. Il y a la région Bretagne, qui, on le voit, le travail qui a été accompli depuis de nombreuses années par les acteurs. On sait qu'en Bretagne, il fait pas toujours beau.
Vous allez mettre Hervé Beckham en colère. Là.
Mais en tout cas, la Bretagne est une destination qui progresse parce que c'est une destination de contenu. Et les Français ne veulent pas seulement du soleil et de la plage, même s'ils partent que lorsque souvent la météorologie est favorable. Ils veulent une identité, ils veulent de l'authenticité. Et on le voit bien, le tourisme de demain sera un tourisme mixte qui proposera à la fois des sites de visite, de la culture, du patrimoine, de la gastronomie, et le tout avec un bon rapport qualité-prix. Et ça aussi, c'est un élément qui est un élément déterminant. On voit que les destinations qui ont trop augmenté leur prix, les destinations qui se sont crues arriver trop vite ou qui avaient de très bonnes réservations chez les acteurs touristiques et qui ont eu tendance à encore accroître le niveau tarifaire, ceux-là ont été sanctionnés. Pour une raison simple, c'est que le budget des Français est un budget vacances en diminution cette année.
Il est combien en ce moment le budget vacances des Français?
Alors le budget vacances des Français, il est en moyenne de 38 euros par jour et par personne. Mais c'est une moyenne qui ne signifie pas grand-chose. Bien évidemment, si on va dans un hébergement gratuit, non marchand, chez les parents et chez les amis. En tout cas, ce que l'on constate cette année, c'est que les dépenses annexes sont en diminution. C'est que les dépenses en restauration sont en diminution. Il y a eu quand même sur la façade Atlantique et en Languedoc-Roussillon au mois de juillet une baisse importante du chiffre d'affaires des restaurateurs. Et on parle toujours du tourisme, mais il y a aussi, il faut voir les loisirs, c'est-à-dire les clientèles qui habitent de plus en plus à proximité du littoral. Il y a un déplacement des populations vers le littoral et ces clientèles, elles sont fondamentales. La clientèle des Bordelais pour le bassin d'Arcachon, la clientèle des Lyonnais ou des Nîmois pour la Grande Motte, c'est une clientèle qui est tout à fait fondamentale parce qu'elle complète l'activité touristique. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a une France à deux vitesses, avec des territoires qui continuent à se renforcer, qui ont un tourisme quatre saisons, et puis des territoires qui deviennent de plus en plus des déserts touristiques, où il est extrêmement difficile pour les opérateurs du tourisme de rester à niveau. Et donc, cette expérience client, ça, elle doit être mise au centre de tout, parce qu'on voit bien que ce soit les acteurs, les territoires, les restaurateurs aussi, les sites de visite, il faut arriver à donner une part de bonheur à nos concitoyens et à nos touristes quand ils viennent. Et ça, ça suppose du service, de l'innovation, de la qualité. Et pour cela, les Français sont prêts à payer. En revanche, quand le produit apparaît trop banal, bien évidemment, ils se détournent. Et c'est un peu inquiétant. Rappelons quand même qu'au mois de juillet, 600 000 de plus de nos concitoyens ont choisi des destinations étrangères pour des raisons tarifaires.
Alors, Hervé Beckham, si l'hôtellerie fonctionne, peut-être que vos collègues de la restauration, eux, ont plus de soucis, non ?
Absolument. Et il est vrai que là, nous avons un bilan pour l'avant-saison et pour le mois de juillet qui n'est pas du tout à la hauteur de celui de l'hôtellerie. La restauration souffre beaucoup. La restauration, Didier Arino vient de parler de l'Occitanie, globalement, ils ont effectivement un retrait sensible de leur chiffre d'affaires. Certaines stations annoncent des moins 12, moins 15% en termes de restauration.
Et comment vous l'expliquez, ça?
Les dépenses aujourd'hui, les dépenses annexes, dont la restauration sur un séjour de vacances, sont en régression très nette. Alors, pouvoir d'achat, très probablement la raison essentielle. Il y en a peut-être d'autres, mais nous constatons en tout cas que la restauration ne bénéficie pas de l'afflux touristique de cette année 2017, tout comme peut le faire l'hôtellerie et l'hôtellerie de plein air.
Même question du côté de la Côte d'Azur, David Lisnard. Est-ce que la restauration souffre dans votre région ?
Là aussi, sans vouloir biaiser ou faire une réponse de Normand pour un Azuréen, mais tout dépend. Enfin, c'est très difficile d'évaluer cela parce qu'il y a des restaurants qui souffrent, bien sûr. On a aussi des restaurants qui ont un très fort contenu par la qualité de leur gastronomie, par leur spécificité, par l'événementiel qui explose. Cette année, on a, je pense à un restaurant sur une île de Cannes, hein, qui voit son chiffre d'affaires totalement exploser, qui est tout le temps complet, alors qu'il est très cher, mais parce qu'il a une spécificité qualitative avec des produits de la mer extraordinaires. Donc c'est très très difficile sur une économie aussi atomisée, en plein cœur de saison, de dresser des bilans. Les entreprises de restauration, comme les entreprises françaises, les pétrolières, etc., évidemment, elles souffrent. Je voudrais dire aussi un autre point, c'est-à-dire qu'il faut qu'on compare la France par rapport à l'étranger, et qu'on parle certes de clientèle française, mais aussi de clientèle étrangère. Sur la Côte d'Azur, c'est plus de la moitié des recettes. La dépense moyenne d'un touriste étranger en France, c'est 110 euros. Hein, donc, c'est une dépense plus élevée. Et là-dessus, cette clientèle-là qui va dans le monde entier compare les offres, la qualité de l'accueil, les prix. Et c'est pourquoi on doit se comparer en termes de charges, en termes de capacité marketing aux destinations concurrentes. Et c'est ce qui nous stimule et ce qui nous rend meilleurs.
Tiens, vous devez vous comparer à l'Italie, à l'Espagne, c'est ça ?
C'est aussi la sécurité. Personne ne parle de sécurité. Je ne pense pas forcément à l'image des attentats, puisque malheureusement, je crois que tout le monde a intérêt que les attentats pouvaient avoir lieu dans beaucoup de pays, mais les images de voitures de police pendant le printemps 2016 qui brûlaient, qui faisaient le tour du monde, rendaient quasiment impossible toute opération de promotion de la destination Cannes, de France, pardon, là-dessus, ce révélateur de la destination France. Donc, pour qu'un pays soit prospère sur le plan touristique, on doit avoir un État régalien qui assume ses missions. Malheureusement, c'est de moins en moins le cas. Quand vous pensez que sur une grande destination comme la Côte d'Azur, pour la première fois cet été, on n'a pas eu de renfort de police nationale sur des zones comme Antibes, Cannes, etc., ça paraît dérisoire, mais c'est extrêmement important. On se doit d'assumer un travail de sécurité des biens et des personnes qui nous rendent visite et qui comparent la destination entre elles.
Allez, on va au standard du téléphone sonne, direction Sainte, où nous attend Francis. Francis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur France Inter, nous vous écoutons.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je pense souvent chez vous. Je constate depuis quelques temps, et depuis quelques années, qu'il y a de plus en plus de camping-cars partout. Hein, que ce soit la mer, en montagne, même hors saison, hein, partout il y a de plus en plus de camping-cars. Et il est vrai, c'est un déplacement autonome. On n'a pas besoin de grand-chose, pas d'hôtel, pas de restaurant. Donc, est-ce que ça cause pas un préjudice ou un manque à gagner par rapport à cet usage de tourisme?
Alors, David Lissner, des camping-cars, on en voit beaucoup hein, sur la Côte d'Azur, généralement dès les premières heures de la soirée, parce qu'il commence à faire beau et on garde le camping-car au bord de la mer.
Écoutez, je n'identifie pas le camping-car comme un problème. J'ai pas l'impression que ce soit un phénomène nouveau. C'est une autre forme de déplacement. Moi, je sais que bon, je trouve ça très sympathique, hein, je trouve ça sympa, mais dans une ville comme Cannes où l'espace est restreint, on n'a pas de structure d'accueil de camping-cars et on peut pas accueillir les camping-cars en littoral dans la ville de Cannes. Objectivement, je peux pas répondre à cette question. J'identifie pas réellement une problématique de perte de recettes nouvelles, en tout cas. J'identifie pas un phénomène récent là-dessus, mais peut-être que vous avez des intervenants plus sachants que moi en la matière.
Hervé Beckham, vous, le professionnel de l'hôtellerie, quand vous croisez de par chez vous en Bretagne des camping-cars, vous dites c'est bien, ça fait des touristes et peut-être des revenus en plus, ou vous dites c'est des concurrents en plus?
Non, je dis que ce sont des touristes en plus. Bon, c'est vrai qu'ils ont choisi un autre mode d'hébergement. Mais c'est de la clientèle supplémentaire qui visite notre région. Et aujourd'hui, les déplacements des camping-cars, le stationnement des camping-cars est de plus en plus réglementé aussi. Donc, je ne constate pas d'augmentation non plus de cette population de touristes qui se déplacent en camping-car. Et puis, c'est exactement un apport, enfin, pour la restauration, en tout cas, c'est un apport de clientèle supplémentaire, potentiel. Tout comme le sont les résidents des terrains de camping à proximité des établissements de restauration.
Alors, j'ai une question de Sauveur sur le site franceinter.fr. Pourquoi ne pas concevoir des hôtels de grande dimension comme en Espagne, de manière à diminuer les coûts par chambre et ainsi permettre une meilleure accessibilité au plus grand nombre? Hervé Beckham d'abord et ensuite Didier Arino.
Oui, bah écoutez, je ne sais pas si c'est la solution d'avenir. En tout cas, ce que l'on vit aujourd'hui, notamment en Espagne, sur cette idée et cette rébellion un tout petit peu des autochtones vis-à-vis de la surpopulation touristique, ne nous ouvre pas de voie, en tout cas, nous laissant croire que des équipements surdimensionnés puissent être l'avenir du tourisme. En tout cas, ce n'est pas celui que nous souhaitons parce que il est facteur de bien plus d'inconvénients que d'avantages pour l'industrie touristique.
Didier Arino, là-dessus, sur ces grandes barres d'immeubles à l'espagnol, comme on peut en voir en Andalousie, par exemple.
Non, mais ça, c'est un tourisme totalement dépassé. On a besoin, effectivement, de ce qu'on appelle des resorts, c'est-à-dire des complexes touristiques thématisés. Mais ça peut être, on a besoin d'innovation. On est de moins en moins dans un tourisme de masse et de plus en plus dans un tourisme de niche. Mais on peut le développer sur des concepts. Je pense à l'œnotourisme, dans lesquels on a beaucoup de choses à créer. On est leader, par exemple, dans le monde sur le naturisme, et les opérateurs comme France 4 Naturisme sont en progression. On a toute la filière culturelle, on a la filière sportive à développer, on a bien évidemment, et ça c'est très important, la nécessité de créer des hébergements innovants. On le voit bien, ce qui a été réalisé dans le domaine de l'hôtellerie de plein air, mais aussi les hôtels, les boutiques hôtels qui ont su s'adapter.
C'est quoi
à des
les boutiques hôtels? J'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'une boutique hôtel.
Et c'est un hôtel dans lequel il n'y a pas beaucoup de chambres, dans lesquelles souvent c'est extrêmement cosy, avec un service qui est un service de qualité personnalisé, avec une décoration qui est thématisée, et les acteurs qui viennent sur ce marché s'en sortent très bien. Donc vous savez, le tourisme c'est aussi un marketing de l'offre. On parle toujours de la demande, c'est aussi l'offre qui crée la demande. Et si nous créons de nouvelles offres de qualité en conformité avec les tendances du moment, nous réussirons. Et quand on le voit, et ça doit être un discours extrêmement positif, dans le secteur du tourisme, l'équation, c'est investissement, innovation, qualité de service, et dans ces cas-là, on gagne. Ensuite, c'est aux collectivités, aux pouvoirs publics de faire l'effort pour que les règles de concurrence avec nos voisins européens puissent être respectées, qu'on ait un peu moins de charges, mais c'est aussi aux acteurs du tourisme de se remettre en question. Et moi, je vous le dis très simplement, et on le voit dans un discours positif, les stations qu'on su se repenser, ou qu'on su s'appuyer sur leurs points forts, je pense à une station comme la Grande Motte, par exemple, où il y a eu une évolution formidable de son offre, avec une montée en gamme, avec de nouvelles clientèles, avec un tourisme 4 saison, ce sont des exemples que l'on doit suivre. Et en la matière, y compris nos grandes destinations touristiques, comme Paris et la Côte d'Azur, elles doivent se réinventer dans les aménagements du front de mer, dans les animations qui sont proposées, dans la conquête de nouvelles clientèles. Et donc le tourisme, c'est un secteur qui gagne à une seule condition, c'est qu'on trouve du personnel pour avoir envie de travailler dans ce secteur. Et le tourisme est confronté aujourd'hui à une vraie difficulté, une plaie considérable, qui est un manque de personnel qui a envie de s'investir dans ces activités, comme tous les métiers manuels, alors qu'il y a de formidables carrières. Et ça pose aussi un autre problème, qui est un problème de qualité de service. Et en la matière, moi je voudrais tirer le signal d'alarme, je constate depuis plusieurs années un affaissement du niveau de qualité de service qui n'est pas lié aux acteurs, aux opérateurs, mais qui est lié à celui qui vous sert au quotidien. Et donc, apprécier, accueillir l'autre, le prendre comme une chance et non pas comme une contrainte, c'est fondamental pour la réussite de notre tourisme.
Ça veut dire beaucoup de travail pour vous en formation, Hervé Beckham ?
Absolument, et il est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous venons de faire un petit tour de France de l'activité touristique, hein, que du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a une constante de constat, en tout cas fait par les professionnels de l'hôtellerie et surtout de la restauration, c'est aujourd'hui la crise du personnel. Tous tirent la sonnette d'alarme. Ça devient quelque chose de vital. Des établissements ferment ou restent fermés une journée ou deux journées de plus dans la semaine parce qu'ils n'ont pas le personnel pour pouvoir assurer leur service. Alors qu'on constate là, et les chiffres qui sont tombés hier ou avant-hier sont encore aggravants, on constate que le chômage ne cesse de croître et que dans notre secteur d'activité aujourd'hui, il y a au moins 200 000 postes de vacants aujourd'hui dans notre secteur d'activité.
Eh bien, on le voit bien finalement, le tourisme est restera un secteur économique porteur et porteur d'avenir aussi en France. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Ce sera le mot de la fin et lundi prochain, c'est Fabienne Saint-Aise que vous retrouvez à cette même place. Très bonne soirée sur Inter.